RFI. Grand reportage.
Décidément, ça va de plus en plus vite en Allemagne de l'Est. J'apprends à l'instant que tous les Allemands de l'Est qui le désirent sont officiellement autorisés à passer en Allemagne fédérale.
Ce matin, nous avons tout un flot de voitures qui arrivent de Berlin-Est et qui viennent non pas pour ce n'est plus l'exode que nous avons connu ces jours-ci, mais bien on vient voir Berlin-Ouest, on vient se promener, on vient boire quelque chose.
Les 30 ans de la chute du mur de Berlin, après ce 9 novembre 1989 qui a surpris par sa rapidité. Très vite, c'est l'effondrement du régime, mais en quelques mois, deux Allemagnes qui n'en font plus qu'une. L'euphorie est pourtant de courte durée à l'Est, et parfois la déception, voire le ressentiment, a fini par s'installer et perdurer. 30 ans après, le passé têtu de la RDA, c'est un grand reportage d'Anicel Jabri.
Berlin-Centre, quartier très touristique, on y croise des grappes entières de touristes parlant toutes les langues. On est ici pile sur l'ancien tracé du mur de Berlin. Sur chaque trottoir, il y a des boutiques, elles débordent de t-shirts ou de pins à l'effigie du fameux Checkpoint Charlie, le lieu de passage entre l'Est et l'Ouest. On va quelques mètres plus loin et là c'est carrément un voyage dans le temps qu'on propose. On tourne à droite, on entre dans un immeuble banal. Alors bienvenue à Time Ride, le voyage dans le temps. Je vais tout vous expliquer d'abord en allemand, puis je vais résumer en anglais. Une guide touristique, cheveux blonds, souriante, se tient debout dans une pièce sombre. Il y a des sièges de bus avec, accrochés au dossier, des casques de réalité virtuelle. Tout ce qu'il faut pour une heure de film, une promenade en réalité virtuelle, Berlin, d'ouest en est, à l'époque du mur, comme si on y était. Prêt pour le voyage, il y a là un touriste néerlandais et la famille Haussmann venue de Cologne, c'est tout à l'ouest de l'Allemagne. Michael et Catherine, la cinquantaine, leurs enfants de 8 et 3 ans.
Depuis que nous sommes ici, les enfants posent beaucoup de questions et veulent tout savoir. Pourquoi il y avait un mur? Pourquoi on ne pouvait pas le franchir comme ça? Pourquoi quelqu'un qui voulait le traverser a été tué? Pourquoi une ville a été coupé en deux. On leur donne des explications, mais ils n'arrivent pas vraiment à se représenter comment c'était à l'époque. Alors on a pensé que ce serait une bonne idée de venir voir ça avec eux pour qu'ils comprennent mieux.
Qu'on ne puisse pas traverser d'est en ouest, ça les enfants ne le comprennent absolument pas. C'est absurde, ils ne connaissent pas cette situation, l'après-guerre. C'est impossible pour des enfants de se représenter cette ancienne époque complètement folle. Nos enfants, chaque jour, ils peuvent aller où ils veulent. Nous faisons du camping en Hollande, en Belgique, en France, en Angleterre, partout. Et c'est pour eux tout à fait normal. Alors des habitants de Berlin-Est interdits d'aller à l'Ouest, ça les dépasse.
Casque sur la tête, la famille plonge plus de 30 ans en arrière.
Life in East Berlin, capital of the GDR.
Voici la vie à Berlin-Est, capitale de la RDA, l'avant-poste du socialisme allemand, censé incarner sa promesse phare, celle d'une société où la solidarité est tout, où il y a du travail pour tous, un logement pour tous, avec des leaders du parti communiste qui aiment à se dire proche du peuple. Voyez ici ce bâtiment, c'est la chambre du peuple, le parlement du pays. Au fil des années, il devient vite très clair que le projet socialiste est impossible à financer. Les désillusions arrivent très vite, il y a des pénuries surtout, les étagères sont vides, et la police politique, la Stasi, espionne toute personne qui ose penser différemment, et parfois ceux qu'on appelle les ennemis de l'État sont arrêtés dans la rue.
Les Allemands de l'Est n'étaient pas libres, et pour moi c'est quelque chose de très important.
On retrouve la famille Haussmann après le film, et cette fois, ce sont les parents qui se questionnent.
Et puis, ils ne pouvaient plus financer ce système social, toutes ces crèches pour les enfants, par exemple. Donc, dans la tête de tout le monde à l'Ouest, ça a été « ça n'a pas marché, alors pssst, faites comme nous, c'est beaucoup mieux ». C'était peut-être en fait très arrogant.
C'est peut-être parfois aller trop vite. On a peut-être trop vite imposé tout ce qui venait de l'Est.
Les politiques disent aujourd'hui « on a fait des erreurs avec la réunification ». Mais ils commencent tout juste à en parler. Ça fait environ 2-3 ans, c'est totalement nouveau. C'est à cause de la montée de l'extrême droite à l'Est. On se demande maintenant, qu'avons-nous raté? Qu'a-t-on mal fait avec la réunification?
Nous vivons dans la République du Bakchich et il n'y a pas de victoire, dit cette chanson. Déjà un goût d'amertume dans ce tube d'un groupe de punk est-allemand, c'était en 1990, un disque devenu l'hymne de cette période. Ce passé, parfois encore méconnu à l'Ouest, reste douloureusement présent à l'Est, comme en Thuringe. On va à Weimar, c'est la ville de Goethe et les pavés pimpantes avec ses cafés et ses terrasses. On y retrouve Volkart Germer. Il a été maire de la ville pendant la période de transition entre la chute de la RDA et la réunification. Aux premières loges aussi pour les premiers pas de la Treuhand. La Treuhand, c'est cette société publique chargée de la privatisation de l'économie entière de l'ex-RDA. 8000 entreprises, 4 millions de salariés. Cet organisme à l'Est, tout le monde ou presque le déteste. Volkart Germer aussi.
Nous avions de très grandes entreprises ici, des entreprises puissantes, y compris sur le marché mondial. Elles ont été en quelques mois, parfois quelques semaines, totalement fermées, toutes. Il n'y avait plus rien. Pour moi, la Treuhand est le fossoyeur de l'industrie de la RDA. On a vendu trop facilement, pour presque rien, parfois pour un marque symbolique. On a laissé faire beaucoup de choses qui n'auraient jamais dû arriver.
Parfois, le couperet n'est pas passé loin, mais Uwe Bernhardt, lui, s'en est plus que bien sorti. Avec sa chemise bleue assortie à ses yeux, ses cheveux gris et son allure soignée, le retraité profite de sa journée assis à une terrasse ensoleillée. Un verre de vin blanc devant lui, il se rappelle avec plaisir du bon tour joué à la Treuhand.
Während der Wiedervereinigung.
Pendant la réunification avec quelques collègues, nous étions inquiets car le directeur de notre usine de l'ex-RDA a dû partir parce qu'il ne convenait plus dans cette nouvelle période. Alors l'équipe m'a élu comme chef.
Uwe Bernhardt s'est alors retrouvé à la tête d'une entreprise de charcuterie de plusieurs centaines de personnes quand il a fallu affronter la menace. Rien n'est aux normes, lui dit-on. Il faut déposer la clé sous la porte.
À ce moment-là, j'ai pris ma voiture. J'avais déjà une chouette voiture à l'époque. Et je suis allé à la caserne des Russes. Les occupants soviétiques étaient encore là. Et je leur ai dit, je veux parler à votre chef, j'ai du travail pour vous. Je vous paie 5 marques de l'heure, plus les repas. En échange, vous allez dans mon entreprise enlever tout le fer, toute la rouille, mettre tout à la décharge. Et vous avez juste cette nuit pour faire ça. J'ai ajouté, et je ne veux pas des soldats de base. Ceux qui viendront travailler avec moi doivent être des officiers. Alors, ils ont fait le travail. Et le lendemain, quand un responsable du ministère de la Santé est passé, il a dit, mais cette entreprise est splendide.
L'entreprise de saucisses a prospéré jusqu'à la retraite d'Uwe Bernhardt. Une histoire rare, une histoire révélatrice aussi, d'un climat où tout se fait à la va-vite, sauf que le plus souvent, c'est pour fermer les usines. Allons en parler avec Elisabeth Heller à Berlin, une sexagénaire enjouée et chaleureuse qui vit à l'est de la ville. Son ancienne vie de programmatrice à la radio de Berlin-Est tient aujourd'hui dans deux toutes petites valises. Pendant qu'elle cherche à l'intérieur, retrouve une bande de magnétophones. Elisabeth Heller se souvient comment elle préparait ses émissions de radio dans les années 70-80.
On devait s'y connaître en musique populaire, en musique folklorique, en musique classique, en pop. On devait tout savoir. C'était très compliqué, mais c'était aussi un vrai plaisir. Ce qui était aussi très important, c'est qu'on avait des quotas. 60% de musique d'Allemagne de l'Est et de pays socialistes, 40% de musique de l'Ouest. Sauf qu'à Berlin, il n'y avait pas de frontières sur les ondes. On pouvait entendre à l'Est tout ce qui venait de l'Ouest. C'était le problème. On était censé être vraiment cool. Mais franchement, on ne pouvait pas. Comment être cool puisque telle chose n'était pas permise, telle autre non plus? On avait tellement d'interdits. Je l'ai dans plusieurs versions. Va regarder ça. Ouais. Attendez, ce n'est pas celle-là. Ah, ça y est, on l'a.
Manchmal wünsche ich mir mein Schaugefährt zurück. Manchmal wünsche ich mir Rast und Ruhe.
Très rarement, une chanson venue de l'Est devient un succès à l'Ouest.
Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt.
Évoquer la chute du mur dans cet appartement rempli de souvenirs tellement présents, c'est d'abord voir le visage d'Elisabeth Heller s'illuminer.
On s'est tellement réjouis. On avait du mal à se dire, on est libre, c'était tellement merveilleux. On pouvait être créatif, on n'avait plus besoin de demander aucune permission, tout était permis. Il faut quand même s'imaginer ça. On est enfin libre, on peut enfin faire de la radio comme on l'a toujours rêvé. Et puis un jour, un fonctionnaire vient et vous dit « C'est terminé, vous êtes tous dehors ».
Un an et demi de liberté, puis le chômage. Comme des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est, Elisabeth Heller n'a plus jamais retrouvé de travail. Elle avait alors 42 ans.
Dans le cinéma.
Plus de travail, plus non plus de repères. En quelques années, les rues sont débaptisées, des immeubles détruits et remplacés. Ces années de transition, Marc Sagnol les a longuement photographiées. Des clichés des années 80 et 90, des clichés d'étudiants, puis d'une vie professionnelle passée à l'Est. Il les expose dans un cinéma à Weimar, beaucoup d'entre elles prises juste après la chute du mur.
Ici, cette image qui a été prise à Dresde, en fait, elle est intéressante parce qu'on voit la Neustadt, c'est un quartier de Dresde, un quartier à la fois ouvrier, étudiant, et un peu devenu plus tard un quartier branché, comme on dit, de Dresde. Et ici, c'est où, au tout début, il est délabré, il y a des maisons ou des fenêtres murées, et on voit en stationnement uniquement des Trabant. Uniquement, sauf une, ici c'est une autre voiture, je crois que c'est tchèque, ça doit être une ancienne Skoda, mais sinon uniquement des Trabant, donc toute une brochette de Trabant. Évidemment, c'est un paysage qu'on ne voit plus aujourd'hui. Si on faisait la même photo aujourd'hui, tout a été restauré et on aurait de toute autre voiture. Donc c'est vraiment une image urbaine différente.
Les Trabant, ces voitures symboles du bloc de l'Est, on ne les voit désormais plus qu'en photo ou en miniature, en vente dans les boutiques de souvenirs. Un passé disparu qui laisse souvent désemparé.
Le sentiment de perte de repère, c'est ici à l'Est, le fait que par exemple, on le remarque bien, les élites ici viennent toutes de l'Ouest. 80-90%, dans certains cas 100%, des postes élevés. Parfois, les postes à un certain niveau, c'est quelqu'un de l'Ouest, à un niveau un peu plus bas, ça peut être quelqu'un de l'Est. Mais quand même, on le remarque.
Et ça s'explique comment ?
Ça s'expliquait bien dans les années 90. Comment l'expliquer dans les années 2010, 2000, bientôt 2020, ça c'est déjà plus difficile.
La transition, c'est aussi dans les entreprises, les administrations, des dirigeants passés au crible. Se juger compromis avec l'ancien régime doivent partir. Ils sont remplacés par des Allemands venus de l'Ouest. Le phénomène perdure et alimente le sentiment à l'Est d'être des citoyens de deuxième classe.
Die Generation, die in dieser Zeit
La génération qui avait la cinquantaine et plus à l'époque a eu, c'est vrai, de gros problèmes pour retrouver un travail.
Matthias Geller le sait bien. Journaliste, puis rédacteur en chef de la radio-télévision de Thuringe à Erfurt, cet ex-pasteur a aussi été porte-parole du premier gouvernement libre de la RDA. On est allé le voir à Erfurt, dans son bureau vitré, au tout dernier étage de la radio.
Tout ne s'est pas bien passé, mais demandez-vous pourquoi. Je ne crois pas qu'il faille chercher les racines du problème dans le système de l'Ouest, mais dans le système de l'ex-RDA elle-même. L'industrie était à terre, les entreprises endettées, et même celles qui avaient encore de bons équipements étaient endettées. Et ça, ça a été confirmé par la suite. Les problèmes, c'est la RDA qui les a créés et entretenus pendant 40 ans. Oui, la privatisation aussi a été en partie mal faite. Oui, des entreprises de l'Est ont été fermées au bénéfice d'entreprises de l'Ouest. Ce processus était en partie inévitable, mais aussi en partie trop rapide. Et parfois, certains s'en sont servis pour s'assurer de confortables profits. Donc, c'est vrai, il y a des choses qui se sont mal passées, mais je peux aujourd'hui encore poser la question: comment aurait-on pu mieux faire quand on pense à la situation dans laquelle on était? Alors bien sûr, il faut enquêter sur ce qui s'est passé, mais c'est regarder dans le rétroviseur. Il faut regarder vers l'avenir.
Sauf que le passé est toujours là. Oublié, parfois effacé, il est désormais réexhumé et utilisé en politique. Quelques étages en dessous du bureau de Matthias Geller se tenait justement ce jour-là le dernier débat avant les élections locales. Contrôles à l'entrée, techniciens en réglage, jusqu'à la toute dernière minute, comme une tension dans l'air. Toutes les têtes de liste aux élections sont derrière un pupitre et quand l'immigration est évoquée, le chef de file du parti d'extrême droite, l'AFD, yeux bleus, cheveux blonds lissés sur le côté, ne rate pas l'occasion.
En moyenne, 78% des Allemands disent qu'ils n'osent même pas donner leur avis comme ils le veulent au sujet de l'immigration et de l'islam. La liberté d'expression, c'est un droit central dans une démocratie. Ici, à l'Est, on a d'ailleurs un très bon souvenir, celui d'une révolution pacifique qui a chassé un régime qui ne donnait pas cher de la liberté d'expression.
Remue Ménage, sur le plateau, le candidat de la CDU est le tout premier à reprendre la parole.
Ça, je tiens vraiment à le contredire. La révolution pacifique, je l'ai faite, comme d'autres ici sur le plateau. Vous n'avez pas à vous approprier notre révolution pacifique. C'est malhonnête. Vous, vous voulez tout, sauf une nouvelle démocratie. Vous voulez autre chose. Et c'est sur ce point que nous sommes fondamentalement différents.
L'AFD se présente désormais comme l'héritière de la révolution pacifique de l'automne 1989. L'histoire comme terrain de controverse, c'est sa marque de fabrique et ça lui réussit. Alors elle laboure ce terrain pour elle si fertile à l'Est, ce passé dévalué et ses espoirs déçus de la réunification.
Trente ans après, le passé têtu de la RDA, un grand reportage d'Adissa El-Jabri, réalisation Pierre Chaffangeon, un magazine à retrouver sur le site de RFI.
Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Stolz zum Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, der darf das nicht und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR und stündlich werden es mehr. Och Erich, ey, bist du denn wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat? Ist das der Sonderzug nach Pankow? Ist das der Sonderzug nach Pankow? Entschuldigung, der Sonderzug nach Pankow? Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker.